Radio. Vous savez ce que répond un canard à un autre canard lorsqu'il pose une question sur ce qu'il pense du voile intégral?
Non.
Hein?
Coin, coin.
Elle est nulle.
Bon, voilà.
Elle est mignonne. Merci, Jarel. À toi, Choam. La blague du jour de Choam.
Génial.
Ah oui, il est bien.
Ah, génial.
Bon, je l'ai dit, hein, c'est politiquement incorrect, mais je préférais le dire. Quoi.
Non, mais
merde, quoi. Le politiquement incorrect ici, non.
Ah, ou alors, il y a un truc qui m'a échappé dans la blague. Non, il répond coin-coin. Tu aurais demandé, tu aimes les frites, il faisait coin-coin aussi, on est d'accord.
C'est bien ça, ouais.
Ouais, d'accord, on est compris. Bien compris. Je me suis dit, il y a peut-être un truc qui m'a échappé, là.
Ah non, c'est un canard. Hein. Bon, c'est con, mais moi c'est typiquement mon humour, c'est l'humour non sans cycle, là, c'est les Monty Python et autres. Moi, j'adore ça, en fait.
Non, mais j'adore. Faut bien que je suis fan de Jarel. Hein.
La devinette du jour. Monsieur, madame, pas pu faire pire, ont un fils, comment s'appelle-t-il?
Je sais pas, Jésus.
Jésus, pas pu faire pire. Non, pas du tout, il s'appelle Honoré. Honoré, pas pu faire pire. Voilà.
Ah, dans les monsieur et madame, j'en ai des sympas aussi. Monsieur et madame Forme ont trois fils.
Monsieur et madame
Forme, trois fils.
Non, Forme,
trois fils. Oh, la vache.
Faut qu'on Jésus, Hans et Grant. Je suis Hans, Grant Forme.
Moi, j'en ai une super bonne. Tu es prêt? J'en ai une très bonne, moi, dans les monsieur et madame. Monsieur et madame Denisot ont un fils. Comment s'appelle-t-il?
Michel.
Bravo, Michel Denisot, tout à fait. C'est celle-là.
C'est sûr. Et moi j'en ai une qui fait assez rire mon fils là, c'est peut-être que vous la connaissez déjà. Vous savez en combien de temps on met un lion dans un frigo? Hein, vous savez? Vous la connaissez,
ça? Un lion dans un frigo?
Un Mars glacé, tu veux dire?
Non, un lion.
Le vrai lion.
Un lion normal, un vrai lion.
Je sais pas, moi je mets pas de lion dans mon frigo.
Bon, bah, trois temps, tu ouvres le frigo, tu mets le lion et tu refermes le frigo. Et tu sais comment, combien de temps tu mets une girafe dans un frigo?
Pareil.
Trois temps toujours.
Trois fois.
Non, quatre temps. Tu ouvres le frigo, tu enlèves le lion, tu mets la girafe et tu refermes le frigo.
On a perdu.
Gus, respire.
Ah, je suis là, c'est vraiment, voilà, ça c'est le genre d'humour que j'aime bien. Il y en avait des comme ça avec enfin bref.
Ouais, mais attends.
Ouais.
Mais vous battez pas, hein.
Non, vas-y, Choam.
Pardon. Ah,
mais...
Est-ce que tu sais comment on appelle un ascenseur au Japon?
Alors, on peut réfléchir un peu.
Je l'ai su. Attends.
Moi, je le savais, je l'ai jamais su. Un qui monte, qui descend, je sais pas. Non, je ne sais pas.
Non, tu sais pas. Jarel non plus.
Non.
Non, je vois pas.
Bah, t'appuies sur le bouton.
Ah oui, c'est vrai. Une autre blague pour les enfants là, je peut-être que vous la connaissez aussi celle-là, c'est le roi des animaux, donc le lion, il décide de faire une gigantesque fête et il invite tous les animaux. Alors il y a tous les animaux qui arrivent et tout ça pour la fête, sauf un, lequel? La girafe, elle est dans le frigo.
Ah, putain.
Ça, j'aime bien la raconter. Ça, c'est une blague en trois temps, justement.
Une blague épisodique.
Épisodique. Et le tout, si tu la racontes bien, c'est-à-dire que si tu les places pas trois tout à fait à la suite, c'est génial.
Oh là là, dis donc.
Tu sais que je me rappelle de ces blagues-là et j'avais quoi? J'avais 15 ans. Hein.
Ah ouais,
à 30 ans, ça fait toujours autant marrer. Hein.
Et attends, en parlant justement des 15 ans, là, j'ai reçu Lips 80s, le truc de karaoké spécial 80s. Ils ont fait donc le truc sur Microsoft, là. Ils ont fait une playlist de folie, quoi. J'en ai pleuré quand j'ai découvert ça. Tu sais, t'as des titres qui te restent en tête, mais tu sais plus du tout quel est le nom du chanteur ni le nom de la chanson.
Et alors, c'est là, pas Leslie.
Non,
c'était les Tokyo Hotel.
Non. Des années 80, Tokyo Hotel, ouais.
Ah, bon.
Ils étaient 80s, ouais. Ils étaient même pas nés à l'époque. Il y a Tears for Fears, Shot, Frankie's Go to Hollywood, Relax.
Pardon, je rigole, je pensais à autre chose. Je viens de me rappeler d'une blague. Si vous voulez, je peux vous la raconter.
C'est bon.
Aujourd'hui, on a dit qu'on faisait un caméra de blague, c'est ça?
Savez-vous ce que c'est qu'une tomate avec une cape?
Super tomate.
C'est ça, c'est super tomate. Et un concombre avec une cape.
Je la connais. C'est concombre qui me ressemble à super tomate.
C'est un concombre déguisé en super tomate. Bah moi voilà, moi me fait rire.
T'es sympa celle-là.
Je la connaissais, ouais, je la connaissais.
Ah les trucs pour les, ça c'est les blagues pour les enfants, c'est toujours très sympa.
Non, bon. Sinon j'en ai un autre. C'est est-ce que vous savez ce qui est rond et rouge?
Une tomate.
Ah non, un rond rouge.
Un bouton pour appeler l'ascenseur au Japon, non? Je sais pas.
Non, c'est un rond rouge.
Un rond rouge.
Ouais. Et est-ce que vous savez ce qui est carré et vert?
Bah un carré vert.
Bah vous la connaissiez, arrêtez.
Bah pour une fois que je trouve les réponses à des questions. Oh, très bien. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez bien rigolé en notre compagnie. On vous dit à de lundi maintenant. C'est vrai que c'est le week-end, donc très bon week-end à tous. On se retrouve lundi pour le 67e podcast Game Radio. Très très 58e. Je me mélange. Non, 59e.
Déjà.
59e podcast. Donc à lundi. Ciao. Au revoir. Bon week-end. Bon jeu. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Game Radio.
Non, on va pas y arriver.
Podcast 66 qui démarre une nouvelle fois sur les chapeaux de roue. 66, non, attends, déjà, je me trompe, aidez-moi.
Je ne sais pas.
68, non?
97?
33,
je réponds 49.
49, 58 et Camoulox, et je passe sur la case 4.
4, Chouam. Et je te dis...
26, je dis choucroute.
Un père, il manque.
Joker, Jean Cunanin sur la balustrade du balcon, et puis je le jette sur qui?
Non, attention, je préfère mettre un Joker à la place du nain. Alors,
Camoulox.
Oh, tu as gagné, Chouam, bravo.
Ouais. Alors, je sais pourquoi je m'embrouille dans le nombre des podcasts. C'est parce que je regarde le nombre de fois où les podcasts ont été écoutés. Donc, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas le 1, le 2 ou le 3. C'est le 65. Non, le 66. 66e podcast Game Radio. Aujourd'hui, une émission qui sent, vous l'avez compris, déjà très bon le week-end, l'apéro, le farniente et la fête entre copains. Puisque nous sommes vendredi, demain nous sommes samedi et après-demain nous serons dimanche.
Très bien. Et je rajoute
le farniente sous les nuages, c'est pas génial.
Oh, moi j'ai du soleil. Moi j'ai le soleil.
Moi j'ai le soleil. Oui, un grand soleil. Non, la météo est prometteuse ce week-end. Ça devrait être pas mal. Je pense même que je vais aller à Toulouse voir Jarel pour aller boire un petit pastis au soleil.
Oui, d'accord. Si tu veux, écoute, ça sera avec joie. Et nous, on t'enverra un petit peu de soleil dans ta grisâtre parisienne. Si jamais ça peut t'aider à survivre, Chouam, il n'y a pas de problème.
Bah, de toute façon, moi, demain, je fête mon anniversaire à Disneyland.
Mais oui, tu seras déguisé en Mickey.
Voilà, c'est ça.
D'accord, c'est bien ça. C'est les photos que j'ai reçues. Et je savais que c'était ton anniversaire. Je voulais le garder pour la fin. Ah, dommage. Ah, joyeux anniversaire.
Bon, tant pis, tu couperas.
C'est pas grave. Bah non, on le refera à la fin. Vrai. Joyeux anniversaire, Chouam. Quel âge cela se fait-il?
je vais pas le cacher au grand public, elle est 29.
29, très bien, tu deviens jeune homme.
C'est mignon ça, oh, regardez comme il est beau notre petit Chouam, il a pas encore besoin de Botox ni rien, c'est mignon.
Ah ouais.
Bon, en tout cas, si jamais vous souhaitiez comptiez aller à Euro Disney donc demain, surtout n'amenez pas vos enfants.
Et alors, donc, voilà, 29 ans,
ceci de fait.
29 ans, qu'est-ce que tu as demandé pour ton anniversaire?
Je l'ai demandé, mais surtout je les ai déjà eus en fait.
Ah, alors dis-nous tout.
Ça intéresse tout le monde. Très logiquement, j'ai demandé des jeux.
Ah, donc des jeux dont tu nous as déjà parlé, forcément.
Eh ben non, même pas en fait. C'est rigolo, hein, mais... Non, en fait, j'ai reçu Brutal Legend.
Ah, quelle chance.
Excellent.
D'accord,
ouais.
Non, vraiment excellent. Une ambiance...
Non,
une
je suis passé à côté. Excellent. Je dis ça, je suis passé à côté. Autant pour moi, oui.
Non, mais très bien. En plus, il te plairait, Gus. Prototype.
Oui, tu nous en avais parlé. Prototype. Tu nous en avais parlé.
Ça, j'en avais parlé. Ouais,
tu nous avais
et
dit
je sais que Jarel n'aime pas trop Prototype.
Mais non, même toi, tu m'avais dit que c'était moins bien qu'une Infamous. Je comprends pas.
Non, mais tout à fait vrai. Et moi, j'ai trouvé qu'il était moins bien qu'une Infamous. Et voilà, donc je l'avais quand même pris parce qu'il était pas cher. Je l'ai eu à 20 euros.
On va pas faire faire le tour de tous tes cadeaux d'anniversaire. En tout cas, demain, Euro Disney, ça c'est quand même cool. Ouais. C'est quelque chose que tu fais souvent, aller Euro Disney. C'est quelque chose qui te... Enfin, tu aimes bien aller là-bas?
Ben oui, parce qu'en fait...
Bien sur mes genoux.
Tu aimes bien aller Euro Disney?
Tu aimes les films de gladiateurs.
Bon, et essaye de faire une transition pour passer sur le sujet du jour, ça va pas être évident.
Ouais, non, non, mais on y est là, on est sur le sujet du jour. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche. Et donc, veille de week-end, nous sommes... c'est un podcast, somme toute, une nouvelle fois, un petit peu... hasardeux, comme j'aime le dire. Ce nouvel épisode vient donc de clore une grosse semaine de podcasting intensif, c'est le moins qu'on puisse dire, voire 15 jours. Depuis les vacances, on a bien bossé. On se pose beaucoup de questions, hein, vous l'avez remarqué, non seulement sur notre état mental, qui apparemment est en train de changer.
De chuter.
Et puis on se demande aussi si vous allez vraiment réussir à écouter tous ces podcasts. On a senti une petite baisse d'audience en fin de semaine qui nous inquiète pas. C'est pas très important, c'est pas très grave. En même temps, on se demande si ce que nous faisons et qui nous prend beaucoup de temps et de travail vous plaît, vous convient. On peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait. On essaye de vous proposer des contenus, somme toute, un petit peu divertissants, un petit peu culturels, un petit peu intéressants. On essaye de donner nos points de vue, nos opinions, de faire de l'info, de la news, d'avoir des invités, de faire des interviews de professionnels, de gens qui le sont moins, de passionnés, de gens qui se bougent. On essaie de vous faire intervenir aussi tant soit peu dans nos émissions. Est-ce que ça vous convient ou pas? Est-ce que ça vaut le coup tous les jours qu'on passe, enfin pour ma part, 4 ou 5 heures à préparer cette émission quotidiennement? Un petit peu moins pour les autres, mais ils prennent quand même sur leur temps. On se pose ces questions, donc n'hésitez pas, vous avez un forum pour nous répondre, vous avez des commentaires, voilà. Aujourd'hui, podcast particulièrement ambitieux. Vous l'avez remarqué.
Non, pas. Alors je tiens à dire que le début a été très difficile et je me demande ce que je vais devoir dire au responsable de Capcom qui doit certainement nous écouter. Coucou.
C'est un peu le problème qu'on a, c'est que effectivement, tu le soulignes. Comment est-ce que tu veux faire un podcast un petit peu divertissant et en même temps avoir des sujets sérieux avec des invités de marque et ensuite leur dire venez écouter notre émission. On a 2-3 blagues à la con au début, mais vous faites pas attention. Hein. J'ai envoyé un mail à Guillaume de Fondomier en lui disant bien vous passez à la 40e minute du podcast. Hein. Vous pouvez pas écouter tout ce qu'il y a avant.
J'avais pas pensé, tiens, je vais le faire ça, tiens.
Oui, donc je le disais, podcast particulièrement ambitieux. Je crois qu'on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, vous allez voir, puisqu'on a décidé de s'attaquer à du lourd, à du massif, à du très gros, à de, voilà, un monument du jeu vidéo. Je suis pas certain qu'on arrive à traiter le sujet de cette émission comme il le mériterait. En tout cas, nous allons faire de notre mieux.
Non, pardon.
On fait pas dans la robotique, désolé.
Avant justement de vous dévoiler le thème de ce podcast, ils sont avec moi. Vous les avez reconnus. Jarel et Shoham sont là. Bonjour à tous les deux.
Voilà. Moi, j'ai pris le genou gauche de Gus et Shoham le droit.
Et moi, j'ai pris le genou droit. Ouais.
Et ça me tient bien chaud.
Bonjour les auditeurs.
Alors, je n'ai pas encore révélé, vous l'avez... Oui, on n'a pas encore révélé le sujet de cette émission. Chut, ne dites rien.
Je tenais à le faire.
Laisse-moi faire. Jarel et Shoham, vous savez donc de quoi nous allons parler, évidemment, dans cette émission. En deuxième partie, je le répète, je propose donc qu'on fasse deviner aux auditeurs, si vous êtes encore là en train de nous écouter, ce dont je doute réellement, vu ce qu'on vous a proposé au début du podcast, ce thème que nous allons aborder. Je vous donne donc quelques petits indices. J'ai été... Ah bah je vais le faire à la qui veut gagner des millions, non, les champions là, question pour un champion.
Oui, vas-y.
Qui veut gagner des champions?
Qui veut gagner des champions? Question pour un million, j'ai été sacré deuxième meilleur éditeur de l'histoire du jeu vidéo, distancé de peu par Nintendo, malgré les sollicitations des trois grands fabricants de consoles, Nintendo, Sony et Microsoft. Afin d'obtenir l'exclusivité de mon catalogue, j'ai conservé toute mon indépendance. Je suis le spécialiste des jeux à suite. Je suis connu internationalement et je me distingue par la qualité de mes jeux, que ce soit dans le domaine des jeux de combat, de plateformes d'action ou du survival horror. Je suis... Chut, on ne dit rien. Eh bien, je vous laisse le temps des News Game Radio pour y réfléchir. Vous avez un quart d'heure. Shoham, Jarel, je vous propose qu'on attaque donc tout de suite notre petit tour d'horizon de l'actu jeu vidéo de ces dernières 48 heures. Bien entendu, nous n'avons pas pris le temps d'en parler ensemble juste avant. Donc, je vais commencer par la petite news Modern Warfare qui fait du bien quand elle passe.
Ouais,
quand
on entend, ça faisait longtemps.
Un moment, puisque un nouveau DLC a été annoncé pour cette année, d'ici la fin de l'année, malgré bon la petite comment dire la petite
Oui, le
tu vois ce dont je veux parler.
Malgré du corps dirigeant de Modern Warfare.
C'est pas ce que je voulais dire. Non. Malgré la polémique autour du Stimulus Map Pack, considéré quand même somme toute un peu light et un peu cher, et qui a pourtant cartonné.
Ce n'était pas un DLC, ça c'était un DTC.
Un DTC, c'est-à-dire
un tour de ton cul. Pardon, excusez-moi. Mince, je les ai perdus.
Du coup, Activision annonce un second contenu téléchargeable qui sera donc mis à disposition des joueurs d'ici la fin de l'année. On ne sait rien pour l'heure de ce DLC. Tout ce qu'on sait, c'est que on devra en savoir plus prochainement.
Et il risque, je peux dire quand même, peut-être, je parie un petit copec sur le fait que le prix sera supérieur à 10 euros.
Ils ont, à mon avis, ils vont pas baisser le prix de leur DLC, il sera certainement vendu au même prix que le fameux Stimulus Map Pack. Je te laisse la parole, Choam, s'il te plaît, vas-y, prends la main.
Alors, il s'agit de Cryptic Studio, plutôt, parce que c'est une boîte qui a été rachetée par Atari. Et pour rappeler, Cryptic Studios, ce sont les développeurs qui ont fait City of Heroes et le dernier Champions Online. Et il s'avère que Cryptic Studios est sur un nouveau projet. Il prépare une annonce. Alors moi je veux pas lancer des
suppositions.
Suppositions, mais mon petit doigt me dit que c'est City of Heroes 2.
Mais oui, d'autant donc, plus voilà. Que je crois qu'ils avaient. C'est pas eux qui avaient déposé quelque chose récemment. Là, tu nous avais dit sur
exactement, un nombre.
Voilà. Donc il y a un lien. Voilà.
J'adore l'annonce mystérieuse.
on mène l'enquête. Alors
ils avancent masqués.
Tiens, rien du tout.
Bah, si tu veux, moi j'en ai
si tu veux.
Hein, tiens, prends.
Vu les DLC, le prix des DLC, Activision a annoncé des bénéfices en forte hausse cette année.
Ah, je pense qu'ils vont être.
On est content pour eux et.
Ils ne vont certainement pas perdre leur place de leader.
On est content pour Infinity Ward.
si, voilà, j'ai retrouvé la petite info. Le magazine Edge, vous connaissez ?
Référence.
Un vieux magazine de jeux vidéo en Europe, l'un des plus respectés. Edge vient d'attribuer pour la 14e fois de son histoire la. Top note, la note maximale, 10 sur 10. Est-ce que vous savez de quel jeu il s'agit?
Je sais pas, Léa Passion?
On parle quand même d'un magazine respecté, mon ami. Non, c'est pas Léa Passion.
Mode Nation Racer?
Non, il s'agit de Super Mario Galaxy 2, qui donc vient d'obtenir la note parfaite. Et oui, le magazine a même dit que il s'agissait vraiment d'un aboutissement et de ce qui se faisait de mieux dans le domaine de la plateforme, rajoutant même que c'était enfin le digne successeur de Super Mario 64.
Alors là, respect.
Ah ouais, d'accord.
Parce
respect,
que je m'attendais à un simple add-on en Super Mario de Galaxy 2.
Et non, comme quoi?
Et non, il va falloir le suivre de très près. Et encore un best-seller pour la console Wii qui en avait vraiment besoin.
Qui en a vraiment besoin, d'autant plus. Oui, moi, j'avais.
Je n'avais. Pas forcément pour les jeux Nintendo.
Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais aucune attente sur ce jeu. Enfin, bref.
Tout simplement parce que les images qu'on a vues et les vidéos ressemblaient fortement à Super Mario Galaxy.
Oui, j'avais l'impression que c'était le même jeu. Avec quelques petites nouveautés, mais non, apparemment, ça. Bon, j'ai pas plus de détails, j'ai pas lu l'article, donc.
Mais je pense que c'est un petit peu l'équivalent de Super Mario Bros. 3 sur NES par rapport au 1. Je pense que ça va être. Le même.
Ça serait terrible, oui.
Non, mais ce qui se passe, c'est que est-ce que ça veut dire aussi que la Wii peut encore nous surprendre et que Nintendo peut encore nous surprendre avec sa console et ses périphériques, c'est surtout ça.
Je pense aussi, et ils vont encore nous surprendre avec Zelda, j'en suis certain.
Tiens, on reste sur la Wii.
On va se le mettre derrière l'oreille celui-là. Ça.
Tiens, j'ai une petite.
Est-ce que la Nintendo Wii peut encore surprendre?
Je note.
Oui.
La Wii peut-elle encore nous surprendre? Très bien, c'est noté. On fera ça.
Je ne serai pas là.
Mais elle va te surprendre tout de suite. Pourquoi? Elle va te surprendre tout de suite, Jarel. Toi qui es un gros fan de Final Fantasy, sache que le WiiWare, en tout cas la console virtuelle, donc le moyen de rejouer à des vieux jeux sur Wii, va accueillir très prochainement. Et c'est la première fois qu'il sort depuis son apparition sur NES. Ah bah tiens, tu vas essayer de deviner de quel épisode il s'agit. C'est sorti le 18 décembre 1900.
Je sais.
Bah si tu sais, dis pas. Le 18 décembre 1987 au Japon. Final Fantasy, premier du nom, arrive sur le WiiWare. Il coûtera 600 Wii Points, l'équivalent de 6 euros.
Mais ça, il sortira mondial ou seulement WiiWare japonais? Alors, en fait,
pour le moment, WiiWare japonais, mais je pense qu'il devrait arriver en France.
C'est une bonne occasion de le découvrir, même si ça commence franchement à devenir intéressant à partir du 4.
Oui, moi j'ai vu quelques screenshots de Final Fantasy. Faut le savoir que c'est un Final Fantasy, sinon ça se voit pas. Hein.
Ah ben, c'est vieux, hein. C'est 87 quand même.
87, ouais.
Ouais, donc.
Bah tiens, Gus, je rebondis rebondi sur ton Final Fantasy pour te simplement annoncer que le PSN va accueillir le prochain épisode de Final Fantasy sur PlayStation, le tout dernier. Est-ce que tu sais lequel c'est, Jarel, j'imagine?
Oui, c'est le 9.
Et voilà.
C'est le, bon, 9, c'est le seul qui manquait. C'est le mal aimé, c'est celui qui, malgré une technique assez irréprochable à l'époque sur la PS1, est sorti en fin de vie de la PS1 et n'a pas du tout rencontré de retour suffisant, malgré un retour au, enfin, justement des bases qui étaient restées près des anciens épisodes de la série. Donc bon, il reste agréable et sympathique à faire, mais sans toutefois marquer plus que ça.
À propos, ouais, il n'aura pas l'aura du 7, hein, ça c'est sûr, il n'aura jamais.
Ah, mais ça, de toute façon, les meilleurs épisodes, c'est le 6 et le 7, et puis voilà quoi. Il n'y a pas photo depuis, il se cherche.
Exactement.
Moi, je vais rebondir. Exactement. Aussi, donc, si voilà. Tu veux bien. Je rebondis aussi, puisqu'on parle de DLC, hein, si j'ai bien compris. On vous a parlé hier.
C'est les mots du jour, DLC.
Hier, on parlait de Xenoclash Ultimate Edition. J'ai un peu avancé le jeu. Je vais pas continuer, je crois. Hein. C'est pas trop mon. Non, ça va. Non, mais c'est pas lui dont je voulais parler de toute façon. Moi, je voulais parler d'un autre DLC qui est arrivé hier sur Xbox 360 et vous devez pouvoir y accéder dès aujourd'hui sur le PSN. Il s'agit de Raystorm HD, qui est un shoot'em up qui a été remis au goût du jour. C'est un jeu qui avait été développé par Taito, édité par Taito, et bon, qui coûte 1200 points, à peu près une dizaine d'euros. Donc, moi, je l'ai téléchargé. Je me suis rendu compte parce que je viens de passer à la HD depuis peu, en fait, hein, je l'avoue. J'avais encore une bonne grosse vieille télé cathodique écran plat. C'est la première fois que je jouais en fait un shoot'em up, donc à scrolling vertical.
Oui,
j'ai tendance à confondre les deux. À vertical, avec ton petit vaisseau et tes ennemis qui arrivent d'en haut. Et je me suis rendu compte que c'était de la merde, que les TV HD n'étaient pas du tout adaptés à ce type de jeu. Quoi. On est en 16:9, donc on se retrouve avec un écran très très plat. Moi, je garde des souvenirs de Ikaruga, même tous ces jeux qui sortent sur console. Tu pouvais encore à l'époque mettre ta télé sur le côté pour pouvoir y jouer.
Ikaruga a une option qui te permet faire basculer le.
Mais quasiment,
l'écran,
en fait. Quasiment tous les jeux, par exemple à la période de la Dreamcast, je pense que sur PS2 aussi, tous les shoot'em up avaient une option qui te permettait de configurer ton écran de façon à avoir une vue étirée dans la hauteur. Et c'est comme ça qu'on joue un shoot'em up. Oui, mais là c'est complètement nul.
Deux bandes noires sur les côtés aussi.
Parfois t'as deux bandes, deux belles grosses bandes noires plus ou moins décorées. Ça aussi on pouvait mettre des fonds d'écran sur certains jeux. Mais là vraiment j'ai arrêté tout de suite. C'est pas possible, c'est impossible.
C'est bête, bon, c'est parce que si t'as arrêté tout de suite, t'étais à peu près à 50% de la démo qui nous ont filé. La démo dure très exactement 30 secondes, montre en main.
J'ai dû faire 15 secondes. J'ai fait non, c'est bon, je peux pas. Je préfère jouer.
T'étais arrivé à la moitié de la démo. C'était pour te donner un aperçu du jeu. C'est vraiment très léger, quoi. Bon, et outre le fait que moi j'en garde un petit souvenir ému parce que c'était un des rares shoot'em up jouable à deux simultanément sur la PS1, mais à part ça,
graphisme rapidement quand même. Ok, graphisme HD, c'est pas non plus transcendant. Et alors la jouabilité, c'est aucune nervosité, c'est mou, c'est naze. Mais je préfère encore rejouer à mes bons vieux shoots sur ma Dreamcast. Ouais, je kiffe quoi. Là, vraiment, j'étais tout de suite à l'ouest quoi. Bon, voilà, petit coup de gueule.
Vaut mieux attendre peut-être un remix de Dodonpachi ou alors ces vieux shoots.
Non, mais nos écrans ne sont pas adaptés aux shoot'em up. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, aux shoot'em up.
Ah ouais, parce que les scrolling horizontaux là, c'est
terrible. Là, c'est génial. Mais par contre, vertical, c'est pas la peine.
Un petit Under Force 5, je cracherai pas dessus.
Ouais, ou un bon R-Type. Regarde R-Type, ça passe très très bien. Il y a pas de problème. Enfin bon, voilà pour le petit coup de gueule du jour. Voilà. Moi, j'en ai fini avec mes news. Donc, je sais pas, Shoham, si tu as d'autres.
Oui, j'en ai encore une petite dernière, là, l'Ultimate. Il s'agit d'Electronic Arts qui vient de dévoiler un nouveau Monopoly. Ah,
mais qu'est-ce que
je vois que vous...
Encore.
Oui, Monopoly
Super,
Street.
Super, ouais, fait. Génial. Ah, attends, ça c'est une bonne nouvelle.
Plus enthousiasmé. Et en plus de ça, il va sortir sur Xbox 360.
Franchement,
PS3, oui. Et Nintendo DS.
Mais c'est génial.
Incroyable.
Super. Ouais.
Et on peut dire déjà une chose, c'est que bon, il y aura pour la première fois, un environnement 3D.
Génial.
On pourra vraiment se balader. Du multi en local ou en ligne.
Ah.
Et, attends, dernière chose, le DLC est d'ores et déjà prévu.
Ah, on va pouvoir télécharger un truc payant tout de suite à la sortie?
Ah, bah oui, hein.
Génial. J'adore. Ah, bon, Monopoly.
On peut personnaliser, tu vois, ta carte ou télécharger le petit pion pour te balader.
D'accord, c'est super.
Et c'est incroyable, hein, parce que là, je viens juste de faire une petite recherche. Il y a déjà une trentaine de jeux Monopoly qui sont sortis, toutes consoles et tous supports confondus.
Mais c'est une licence qui cartonne, on le sait pas. On ne le dit pas assez. Mais Monopoly, c'est un très bon jeu vidéo. Non, je sais pas, j'ai jamais joué.
C'est que par son nom, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, mamie Ginette, quand elle va au magasin, elle voit, oh, Monopoly sur Xbox 360. Bah, je vais l'appeler, je vais l'acheter pour mon petit-fils.
C'est très bien. Ça
voilà.
Voilà. Oui, oui, là, oui, pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre la suite. Mon Dieu.
Non, c'est pas grave.
J'ai pas eu envie là, ça d'un coup. J'étais en train de réfléchir. J'étais parti dans mes souvenirs de Monopoly. C'est vrai qu'on a, c'est un jeu culte, un jeu de plateau culte, et que moi ça a bercé mon enfance avec La Bonne Paye et Risk.
Tu viens de dire, le mot, un jeu de plateau culte.
Oui, voilà.
Plateau.
Et je crois même que je dois avoir une version Scooby-Doo qui doit traîner quelque part dans un placard.
Il a été. Alors là, les versions Monopoly là de plateau, c'est énorme là.
La version Transformers, la version Star Wars,
la version
et la version mon cul.
La quoi version mon cul.
Non, je plaisante pas, hein. Ils ont sorti Monopoly, attention, hors sujet, ils ont sorti enfin la version mon cul. Voilà, la ville de mon cul.
Ah, de la ville de ton cul. Alors, ouais.
Non.
Non, de mon cul, pardon. Mon cul, c'est ce que je voulais dire.
M-O-N-C.
Oui, je sais. Mon cuc, même.
Cuc.
Voilà. Il y a un cul, mais qu'on...
Et en fait, pour un petit rappel pour l'histoire, c'est que c'est Hasbro a fait un concours pour savoir quelles seraient les villes de France qu'on voulait dans un Monopoly France.
Et tout le monde a répondu massivement mon cuc.
Exactement.
Combien d'exemplaires du Monopoly de mon cul?
Ben non, mais en plus le truc c'est que ils ont finalement le concours, vu que mon cul était parmi les, il était le premier en fait, la première ville, ils ont annulé la ville de mon cul pour le Monopoly France.
Vas-y, jette les dés dans mon cul.
Et attends, et rigole, mais tu vas la voir en DLC ça.
C'est pas interdit,
t'imagines.
Ils ont enlevé la ville de mon cul dans la boîte de Monopoly France, et ils ont promis qu'ils sortiraient à Monopoly mon cul, chose qu'ils ont faite.
Et ça, par contre, Hasbro, chapeau, parce que il fallait oser, il fallait le faire, et tenir une promesse de nos jours, c'est quand même assez rare. Donc bravo.
Surtout venant d'une boîte comme ça. Hein.
Beaucoup d'humour chez Hasbro.
Et donc la réponse de la devinette du début peut-être.
Ah oui, on va passer à la suite de cette émission, la deuxième partie, la fameuse deuxième partie consacrée, je vous le disais, à quelque chose d'un petit peu énorme. Donc on va s'y attaquer avec nos piolets et nos crampons. On va essayer de grimper la montagne. Capcom. Et oui, on va parler de Capcom. Pourquoi ? Parce que il y a eu énormément de bons jeux qui sont sortis ces derniers jours, et il y en a encore un qui va arriver très bientôt. Il s'agit bien entendu de Lost Planet 2. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Non, parce que
pas mis l'accent en fait.
Non, c'est même pas ça. Non,
Lost Planet 2.
Au contraire, je suis hyper content.
Ah voilà, il est content qu'on en parle. Mais oui.
Ouais, trop
voilà.
Bien.
Voilà, alors on parlait récemment de Monster Hunter 3, on a parlé aussi un petit peu de Super Street Fighter 4. Voilà, donc des très bons jeux. Il fallait qu'on marque le coup, d'autant plus que Shoham hier a eu la chance, le bonheur, le privilège de participer à une espèce de journée de présentation. Ils étaient 4 gamers à pouvoir tâter du mode coopération sur quasiment toute sa longueur.
En réalité, on était 8. Hein. C'est-à-dire deux groupes de 4 pour une par machine. Voilà, donc il y avait la PS3 et la Xbox qui étaient représentées.
Mon Dieu, mais c'était une soirée énorme, quoi. Il y avait deux machines, c'est impressionnant.
Soirée, une journée, tu peux dire.
Ah, une journée. Oh.
Bon, en tout cas, il a pu vraiment s'essayer au mode de jeu qu'on attend tous, en tout cas sur Lost Planet 2. En tout cas, moi, c'est celui que j'attends. C'est le coop à 4. Et tu vas nous en parler, mais on va garder ça pour un tout petit peu plus tard. On va parler donc de Capcom. Je le disais dans l'introduction, on va revenir sur tous ces points, parce que finalement, c'est vrai que Capcom a toujours réussi à garder son indépendance. On parlait hier, par exemple, de... Non, on va pas reparler de ça. Pardon.
Non.
Capcom a toujours réussi à garder son indépendance, et ça, je pense qu'il est important de le souligner. C'est un des studios de développement, un des éditeurs qui, aujourd'hui encore, n'a pas cédé. Enfin voilà, Capcom est resté indépendant.
Ils n'ont pas été tentés en fait d'être rachetés par des boîtes comme l'a fait Namco, comme a fait la plupart des Square Enix, etc. Ils n'ont pas tenté d'être rachetés ou de fusionner avec une autre boîte. Et ça, je trouve que c'est très très fort de leur part.
Voilà, en sachant que c'est quand même, ils sont juste derrière Nintendo. C'est les plus gros éditeurs après Nintendo. Ils ont su se distinguer dans pas mal de types de jeux, dans pas mal de domaines. Je l'ai dit, le jeu de combat, bien entendu, avec notamment la série Street Fighter, jeu de plateforme. énormes. Il y en a eu énormément. J'en cite un comme ça au vol, Megaman, par exemple, avec ses, je sais plus, 15 épisodes. Et bah, combien il y en a eu? Jeux d'action, bien entendu. Ça, c'est déjà plus récent, jeux d'action, mais, bah, notamment avec Lost Planet, qui, qu'on le veuille ou non, est une licence forte. Et puis surtout, le survival horror avec Biohazard, enfin Resident Evil.
Sans compter oui, les RPG.
Sans compter les RPG, Breath of Fire.
Breath of Fire, ouais,
Breath of Fire entre autres.
Breath of Fire.
Entre autres, ouais. Breath et puis la série des Monster Hunter qui est un carton au Japon.
Tout à fait. Tiens, je vais vous poser une petite question. Je vais vous poser une petite question. J'espère que c'est une colle, mais je pense pas. Vous devez vraiment connaître la réponse, à mon avis, surtout si vous avez un tout petit peu préparé cette émission. Peut-être que nos auditeurs ne le savent pas. Est-ce que vous savez ce que veut dire Capcom?
Ouais, capsule computer.
Très bien. Merci. C'est ça. Capsule computer.
Capsule computer, ouais.
Capsule computer.
Et en fait, donc, ils se sont servis parce qu'au début, Capcom s'est fait connaître. C'est une société d'Osaka qui s'est fait connaître dans les années 80, au milieu des années 80, avec un premier titre Vulgus, avec les shoot'em up, en fait. Ils étaient très connus pour leurs shoot'em up. Et dans un shoot'em up qui s'appelait Section Z, il y avait comme personnage principal, enfin, le pilote du vaisseau, qu'on ne connaissait pas, c'est marqué juste sur la notice, s'appelait Captain Commando. Et Captain Commando, qui a été dont les initiales rappellent évidemment Capcom, est devenue une mascotte officielle assez rapidement.
Mais alors, quelle est l'origine de Capcom? Il y en a deux.
Non, la vraie origine de Capcom, parce qu'il s'appelait d'abord déjà Capcom, c'est Capsule Computer.
D'accord.
Après, tu vois, je ne savais pas du tout.
Ils se sont servis justement de leurs premières initiales, donc Capcom, pour créer le
Captain Commando. Ok. Ah oui, d'accord.
D'accord, ça vient de là, ça vient de là. D'accord.
Ça vient de là. Donc, alors attendez, on va quand même dire.
Les deux, tu as une référence à Captain Commando, c'est pour ça.
Bah, d'ailleurs, il y a des références un peu partout.
Ouais. Ouais.
Tu retrouves les apparitions de Captain Commando dans Capcom World 2, dans Marvel vs Capcom 1 et 2, et dans Namco X Capcom, sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc.
Les gars, vous êtes d'accord, hein, on n'a pas forcément les compétences, le talent, les connaissances pour
on va pas passer directement vers les versions next gen,
on va quand même essayer de parler un petit peu de tout. On va pas pouvoir parler de tout non plus, on va certainement oublier des trucs, alors dans les commentaires ou autres, ne nous dites pas vous avez pas parlé de ça.
Ouais, vous êtes trop nul.
On sait qu'on va oublier plein de trucs, on sait qu'on va oublier plein de trucs,
pas des pommes, des tomates,
et puis de toute façon
on n'est pas des professionnels aussi.
Ouais, on va pas pouvoir parcourir 20 ans d'histoire non plus comme ça en un quart d'heure, 20 minutes. Donc la société, tu le disais, années 80, enfin années 70, hein, 79, ça s'appelait pas encore Capcom, c'est un tout petit peu plus tard qu'elle est devenue Capcom Co. LTD, donc ça c'était en 1983. Il faut savoir une chose, c'est que
d'où leur premier titre qui est ce shoot'em up qui est sorti en 84 en fait.
D'accord.
Sous le nom de Capcom.
D'accord, ok. Et alors donc je voulais juste te dire une chose, c'est qu'il y a presque il y a à peu près 900 jeux tous supports confondus qui sont sortis de chez Capcom, avec un beau record de sorties. D'ailleurs c'est sur ce support là qu'il y a eu le plus de jeux Capcom, c'est sur bornes d'arcade. Il y a plus d'une centaine de titres qui sont sortis sur des bornes d'arcade. Il faut savoir que d'ailleurs si Capcom, contrairement à Sega ou Nintendo, mais surtout Sega par exemple, Capcom a fabriqué ses propres bornes, ses propres systèmes de jeux d'arcade.
Ouais, mais il reste un des gros, enfin il restait encore un des gros de l'arcade, quoi. On pourra citer Megaman, le Double Dragon.
Alors quand Kadiak, je parlais de système, c'est
fait, que tout un tas de beat'em all aussi, comme Alien vs Predator et les deux Dungeon et Dragon aussi par exemple.
Quand je parle de système d'arcade, c'est qu'autant tu vois Sega, ils ont fait des consoles, mais Capcom eux non, ils se sont vraiment concentrés essentiellement sur les bornes. Ils ont jamais eu on aurait pu imaginer une console Capcom, ça aurait été chouette d'ailleurs. Non, il y a eu quand même à peu près 8 systèmes d'arcade qui sont sortis depuis maintenant plus de 20 ans. Je les connais pas tous, on connaît beaucoup plus les CPS 1, 2, ouais. 3, qui sont donc les Capcom Play System, et sur lesquels il y a eu vraiment des très 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 bons jeux.
Ils se laissent rejouer encore.
En France,
encore
on connaît pas trop. Hein. C'est vrai que les bornes d'arcade en France, c'est moins qu'au Japon. C'est une institution.
Il y a énormément de jeux, je l'ai dit, hein, plus de 900. Bah. On va pas pouvoir parler de tous. Il y en a quand même certains qui nous ont vraiment marqué, je pense. Quasiment tout le monde les connaît. Je pense notamment à 1942 et 1943, les shoot'em up, là, avec les petits avions, qui était sorti en 84 justement, qui était peut-être d'ailleurs un des premiers shoot'em up Capcom, hein, ça devait en faire partie, qui sont d'ailleurs accessibles, hein, sur la plupart des jeux dont on va parler. De toute façon, je crois qu'ils sont accessibles en DLC sur nos consoles.
Ben, récemment en DLC, on a eu droit au moins sur le Xbox Live à
Fatal Fury
Fight et à Magic Sword.
Ouais, voilà. Je confondais avec Fatal Fury, oui, Final Fight. D'ailleurs, et moi j'ai jeté un œil, c'est vraiment en trait pour trait la version de l'époque hein, que j'ai aussi.
Oui, et... ils ont fait du très bon boulot.
Ouais, très très bon boulot.
Il y a aussi les petits clins d'œil oldies qui font plaisir à voir, que sont Mega Man 9 et 10 qui sont sortis sur le PSN et sur le XBL, ceux-là.
Tiens, à propos de Mega Man, excuse-moi, moi je me suis toujours posé une question et j'ai pas la réponse. Tiens, pourquoi est-ce qu'au Japon on l'appelle Rockman et pas chez nous?
D'ici la fin de l'émission, je te donne la réponse.
D'accord, ok. Rockman. Pour ceux qui le savent pas, au Japon, il s'appelle Rockman, le petit bonhomme bleu. Et chez nous, Megaman. Moi, je préfère Megaman en soi. Mais voilà, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Rockman?
Alors, question.
Parmi les jeux d'arcade.
Pourquoi Megaman surtout?
Oui, à la limite, pourquoi Megaman? Parce que c'est plus classe. C'est plus méga cool. Je voulais savoir.
La série des Resident Evil. Tu expliqueras quel est le nom en japonais. Je pense que les gens veulent savoir.
Biohazard. Biohazard.
C'est pas le même Biohazard. Alors que voilà, chez nous c'est Resident Evil aux États-Unis et en France.
Bon, alors tu as plusieurs missions, Jarel. Hein, pourquoi est-ce que les noms des jeux Capcom ne traversent pas les océans pour venir jusqu'à nous? Enfin, en tout cas, sont changés entre temps. Au niveau de l'arcade, on peut pas donc parler de tous les jeux qui sont sortis. Est-ce que vous, il y a des jeux qui ont la plupart d'ailleurs ont été adaptés sur les consoles de salon de l'époque, hein, Master System, Mega Drive et plus tard Dreamcast. Quels sont les jeux qui vous ont marqué et qui étaient issus de l'arcade? Est-ce que comme ça, de tête, je sais pas, moi je pense à Ghosts and Goblins, forcément.
Ouais, ça.
Moi forcément, Double Dragon, quoi.
Cadillac and Dinosaur, je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là.
Oui, il était très sympa.
Très sympa, ouais, complètement décalé avec des bulles à l'écran, enfin un univers un peu BD, hein. Et des espèces de gros dinosaures qui étaient la plupart du temps des ennemis. Je repense à Monster Hunter 3 où t'as là à nouveau des dinosaures. Enfin, Capcom aime bien les dinosaures. Depuis longtemps apparemment. Dans les jeux d'arcade qui ont été adaptés, plus récemment, moi j'ai de très bons souvenirs sur Dreamcast de Power Stone.
Power Stone, excellent, excellent titre de la Dreamcast. Ouais. Qui a fait les beaux jours, les premiers beaux jours de la
partie,
Dreamcast.
Ouais, et,
alors autant... une sorte de jeu de combat jouable
à 4. Jouable à 4.
Très très sympa.
Avec des items, des armes sur la carte qu'on pouvait ramasser pour sauter sur la gueule. Les cartes étaient pas immenses, alors je sais pas si vous vous souvenez, il fallait ramasser des gemmes de couleurs et dès que t'en avais récolté 3, donc par exemple une bleue, une rouge et une jaune, hop, tu te transformais en je sais plus le nom des personnages, mais si t'étais l'Indien, tu devenais le super Indien et là t'avais une espèce de coup super puissant que tu pouvais envoyer sur tous les autres.
Un coup de tomahawk.
Là où ils ont fait très fort, c'est qu'à l'époque ils ont sorti le premier Power Stone qui était déjà très sympa, certes répétitif et limité, et ils ont sorti le Power Stone 2 un peu sur la fin de vie de la Dreamcast. Et qui était lui, mais alors énorme. En tout cas, Power Stone 2 avait été exceptionnel, quoi. On pouvait
ils ont marqué. J'ai l'impression que Capcom a vraiment marqué chaque génération de consoles sur lesquelles ils sont allés. Il n'y a pas un titre à chaque génération de consoles, ils ont su imposer un titre qui rentrait dans le panthéon du jeu vidéo. Hein.
Ouais, et les exploiter.
On voit même avec la Xbox 360, c'était les premiers éditeurs japonais à faire leur pas sur Xbox 360, et leurs deux jeux, donc Lost Planet, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et surtout Dead Rising sont vraiment très très bons.
On en parlait tout à l'heure, et alors on a oublié un gros titre du jeu de baston parce qu'ils sont très très forts là-dedans, c'est Street Fighter bien entendu, sorti sur arcade et puis sur les consoles de salon de l'époque.
La licence Street Fighter qui a surtout connu une explosion avec le Street Fighter 2 beaucoup plus abouti alors que le 1 était une sorte de d'esquisse pour ainsi dire.
On va pas faire tout le cursus de Street Fighter, il y a trop de choses à dire, il y en a beaucoup.
J'ai consulté ma Bible Megaman.
Ouais.
Si jamais il y a des personnes qui adorent les jeux rétro et autres, je ne pourrais que trop leur conseiller les éditions Pix & Love, et ils ont fait un très bon article sur Megaman, là où on voit tout. Et donc il y a plusieurs rumeurs sur l'origine, pourquoi le changement de nom entre Rockman et Megaman, donc du Japon à l'Occident. Alors la première, c'est qu'il pourrait s'agir en fait que Rockman était un nom qui était déjà utilisé par un groupe de rock à l'époque. Mais ça peut être peu crédible.
Ouais.
La deuxième, c'était qu'aux années 80, on utilisait beaucoup le mot méga, donc les commerciaux américains ont décidé de rebaptiser Rockman en Megaman parce que ils aiment bien méga.
Ah, tu vois, j'ai eu une réminiscence des années 80 tout à l'heure en disant que c'était méga cool. Ouais,
c'est méga cool. Mais en fait, c'est Inafune, le créateur de Rockman, qui a peut-être la version la plus sensée. Donc je vous cite directement le Pix & Love. Au Japon, Rockman, ça sonnait bien, mais au final, pour un anglophone, ça ne voulait rien dire. Littéralement, c'est l'homme caillou ou encore l'homme rock'n'roll, mais en y regardant de plus près, notre personnage n'avait rien à voir avec les pierres ou la musique. Bref, pour un public d'anglophones et de soucieux des titres dans leur langue, il fallait trouver un nom plus légitime et justifié. Donc en fait, c'est purement des raisons commerciales.
Ouais, bah cette version me paraît être la meilleure, effectivement.
Bon, c'est surtout que ça vient du créateur lui-même, donc
c'est la bonne, ouais, forcément. Tiens, jeu de baston, je voulais revenir là-dessus, donc on parlait de Street Fighter, il y en a beaucoup, donc on va pas parler de tous les Street Fighter au travers des années. Par contre, il y a des jeux qui ont été peut-être moins connus, mais qui sont pourtant super intéressants. Moi, je pensais à des jeux comme Star Gladiator, Techromancer, et qui étaient pour moi des très bons jeux de baston. Bon, Star Gladiator un peu moins, mais Techromancer, moi, j'ai adoré. J'y ai joué sur Dreamcast, donc c'était sorti en arcade sur le système dont j'ai oublié le nom. Enfin, c'est pas grave. Et puis il y avait aussi la série des X-Men versus Capcom, Marcel versus Capcom.
Les Marcel versus Capcom.
Très bon ça, bravo.
Et niveau shoot'em up, bah là aussi il y en a eu un paquet. Il y en a eu un paquet. Moi je suis assez fan, j'ai des très bons souvenirs, j'y joue encore de temps en temps à Giga Wing. Enfin bref, ouais. Voilà. Donc
Ah ouais, mais le jeu, toi t'es à fond Dreamcast, hein, le Giga Wing, le Giga Wing 2 sur Dreamcast.
Ah qui est horrible.
Atomique Bomba. Et puis ça explose partout sur l'écran, tu vois plus rien.
Et qui est horriblement dur. C'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué sur Dreamcast.
C'est un manic shooter. Hein. Sinon, bon, on peut parler.
Sur Dream, il y a quelques jeux, c'était un peu du hardcore gamer. Quoi.
Bon, là, on a rapidement fait le point.
On peut parler
entre
Bionic Commando rapidement.
Mais on va y arriver.
Je conseille sur le remake, sur les deux plateformes de téléchargement, PSN et XLA. Voilà.
Bionic Commando, moi j'y rejoue récemment. La version de l'époque est hardcore hein, quand même.
On n'était pas des petits joueurs à l'époque. Hein. Maintenant, on est devenus des petits joueurs.
Non, je sais pourquoi je ne finissais déjà pas mes jeux à l'époque. C'est juste ça. Bon, bien entendu, Capcom, c'est aussi des Devil May Cry. Grosse licence. Même si ça s'essouffle
un peu.
Bien
après.
Oui, là, on arrive à...
Bien après,
non. Époque Dreamcast, PS1, PS2. C'est un peu cette période-là, Devil May Cry. Première apparition sur quelle console?
Bon, puisqu'on est dans les anecdotes, justement, est-ce que vous savez d'où vient Devil May Cry? Comment est née la série Devil May Cry?
Non, mais tu vas nous dire.
Non, oui.
Je vais vous donner un petit peu les origines. Il s'avère que Devil May Cry est arrivé juste après le Resident Evil 3. Où le créateur, je me rappelle plus de son nom, le créateur de Resident Evil voulait un nouveau souffle à la série parce que le 3 ça faisait déjà un peu le même style que le 1 et 2 si vous vous souvenez, et il avait créé donc tout un système de jeux donc très très fort et avec beaucoup d'action, mais qui sortait un petit peu des chapeaux de roue de la série Resident Evil, et donc il a créé finalement il a complètement changé son projet avec un nouvel univers, un nouvel héros, un nouveau personnage pour pouvoir créer la série des Devil May Cry. Donc Devil May Cry n'est que finalement l'enfant
de Resident Evil 4.
Ça devait être Resident Evil 4 à la base, donc ça devait être Leon qui devait être Dante.
D'accord. Et mais moi je vois, ouais, en même temps il s'en écarte quand même effectivement suffisamment pour qu'on ait pas ce sentiment, on n'a pas l'impression du tout en tout cas de jouer à Resident Evil.
C'est exactement ça. Mais Devil May Cry aurait pu être un Resident Evil 4 si ils n'étaient pas autant séparés au niveau du style.
Bon, en tout cas voilà, beaucoup de licences fortes, on peut pas parler de tout. Resident Evil, oh oui, bien non, entendu, ça, Phoenix Wright, qui sont des très bons jeux d'enquête, enfin d'enquête pas vraiment.
Quand je te dis qu'ils ont marqué toutes les plateformes sur
Game Boy Advance et plus récemment sur DS, Beautiful Joe, moi que j'ai adoré sur GameCube, vraiment très très bon jeu. Killer 7 aussi sur GameCube. Okami,
très bon jeu, exceptionnel, des développeurs de Clover.
Zack and Wiki, qui est un des meilleurs jeux de la Wii, qui est un point and click jeu d'aventure vraiment exceptionnel.
Oui, vraiment excellent.
Qui n'a pas eu le succès qu'on aurait voulu.
Voilà, donc Capcom a quand même, il a en tout cas un très bon accueil de la critique et des joueurs qui y ont joué, bien entendu, il n'a pas eu le succès. Mais Capcom, malgré tout, à chaque fois, sort des jeux qui sont des licences quand même qui marquent et qui sont assez fortes. Il n'y a pas beaucoup de ratés hein, chez Capcom.
Pas énormément, en fait. Hein. Quelques fois, bon, dans leurs suites nombreuses et
très
tirées,
ce sont les rois de la suite, hein, faut le dire.
Il y a des épisodes un petit peu moins bons que les autres, mais sinon, quand on voit ce qu'ils ont fait encore, on cite pas tout. Hein. Et chaque fois que tu me donnes un nom de série, j'en ai un autre qui arrive.
On rebondit sans arrêt, c'est vrai. En tout cas, oui,
ils ne font pas que créer des séries, puisqu'ils ont aussi repris des séries qui existaient déjà, mais d'autres éditeurs, comme celle de Nintendo, Zelda. Voilà, ils ont fait les Zelda sur GBA et sur GBA. C'est peut-être pas, mais c'est Capcom qui les a développés et édités.
On va peut-être revenir maintenant à quelque chose de plus récent. La next-gen, on l'a vu, tu le disais tout à l'heure, Capcom, à chaque fois, quelles que soient les époques, a toujours su vraiment très très bien s'adapter aux consoles du moment, en tirer toute la quintessence et même proposer des jeux parmi les plus intéressants, les plus beaux. Avec la next-gen, c'est le cas cas aussi, et ils ont commencé tout de suite, dès la sortie de la 360, puisque très vite est arrivé le premier Dead Rising, qui proposait vraiment beaucoup d'innovations en termes de gameplay. Dead Rising, toi, je crois que Jarel, ça fait partie de tes jeux fétiches.
Ah ouais, moi, j'ai adoré. Pour moi, c'est un des jeux de zombies les plus réussis avec Left 4 Dead, quoi, et Resident Evil 1. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment génial. Bon, il est pas ouvert à tous les joueurs, parce qu'il est les points de sauvegarde sont vraiment très légers, t'as qu'une seule sauvegarde, tout se base sur la notion du temps, il faut savoir où aller et y aller rapidement avec une sorte de parc infesté de zombies, enfin de parc et de centre commercial infesté de zombies. C'est vraiment pas évident, mais c'est une expérience à vivre, une expérience qui sort de l'ordinaire dans l'univers du jeu vidéo et qui est vraiment passionnante.
Capcom a été très fidèle à Nintendo avec ses Resident Evil pendant quelques épisodes là, les plus récents, avant Resident Evil 5, qui lui aussi n'a pas laissé indifférent les joueurs.
Bon, c'est du Resident Evil 4, on va dire,
qui a déçu pas mal de fans. C'est vrai qu'on a une grosse nostalgie des Resident Evil qui te font mais vraiment flipper avec des couloirs où il se passe rien du tout et où tout est dans la suggestion. Là, on était sur quelque chose de plus moderne, donc du fight, du gun, du sang, des tripes.
Ah, mais c'est clairement un jeu d'action et qui ne vaut que par le fait d'être jouable en coopération. En coopération, il est très agréable à jouer. Bon, je le déconseille sur la même télé, enfin en coopération locale, parce que là, les écrans se réduisent en peau de chagrin. Mais sinon,
ouais, on se retrouve avec
sur le live
écran.
Ou sur le PSN, il est vraiment terrible, très intéressant.
Et petite polémique à sa sortie, puisque les zombies sont tous noirs, et donc on désingue du zombie black tout le long du jeu quasiment, et ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Bon, alors je sais pas ce qui se passe, je n'ai plus Shoham, Jarel n'est plus là non plus, donc je vais tout simplement continuer tout seul cette émission. On parlait donc de Resident Evil, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, ils sont apparemment connectés, c'est peut-être une blague qu'ils sont en train de me faire, qui sait. Voilà, donc passage à la next-gen très très réussi, avec donc un Dead Rising magnifique, un Resident Evil qui ne l'est pas moins. Un Lost Planet, premier du nom, franchement réussi. Bionic Commando, la version 2009, pardon, qui était quand même un très très beau jeu, malgré un multijoueur un petit peu en dessous. Et puis sur Wii, on a eu un Tatsunoko versus Capcom qui fait l'unanimité aussi pour les possesseurs de la console de Nintendo. Et plus récemment, Monster Hunter 3 qui cartonne, marche très très bien et on le comprend puisqu'il propose enfin un mode multijoueur sur la console Nintendo digne de ce nom. Et puis moi, finalement, après y avoir passé un peu plus de temps depuis la fois où j'en ai parlé dans un podcast précédent, eh bien je revois un peu ma position. J'avais dit que le jeu était pas beau, ça me faisait plus penser à un portage de la version PSP sur la console Wii. Eh bien, quand on avance dans le jeu, on arrive sur des cartes, sur des maps, sur des environnements qui sont tout bonnement magnifiques. J'ai pris une claque récemment sur ce jeu. Pourtant, je sais pas, on a l'impression que le jeu commence réellement à devenir un beau jeu Wii un peu plus tard. C'est assez étrange, avec notamment des passages dans des marais, dans la forêt vierge, avec il pleut, il y a des cascades, l'eau est superbe. Quand on se retrouve sous l'eau aussi, il y a de la vie, il y a des poissons qui sont très bien faits. On a une vraie sensation d'être dans un pays fantastique, en pleine préhistoire. Et j'ai été complètement soufflé par les créatures qui sont là à ce moment-là, dans ces paysages. Le jeu devient vraiment beau. Donc je reviens sur ma position. Démarrage un peu difficile, et ensuite le jeu prend vraiment toute sa magnificence. Le Monster Hunter 3 est vraiment beau. J'entends du bruit. Qui est là?
Oui, c'est moi. Ah. Je suis revenu.
D'accord, Jarel est revenu. Par contre, on a perdu Shoham en cours de route. C'est pas très grave.
Non, je suis là. Hein.
Ah, bah, je t'entendais.
Je suis désolé, j'étais au téléphone.
D'accord. Faites votre vie, y a pas de problème. J'étais en train donc de parler. J'ai juste dit tout simplement que sur Next Gen, on avait eu du beau. Donc j'ai parlé de Dead Rising, Resident Evil, etc. J'ai parlé rapidement de Tatsunoko versus Capcom, qui est un très bon jeu de baston sur Wii essentiellement. Et puis bien entendu, Street Fighter 4 et plus récemment Super Street Fighter 4, qui là aussi cartonne, est un très beau jeu. Street Fighter revient aux sources avec ce Street Fighter 4, on l'a assez dit, vous l'avez lu partout, on va pas en rajouter. Moi je vous propose tout simplement qu'on écoute tout de suite l'interview que tu as fait Shoham hier. Est-ce que tu peux nous rappeler Alexandre, j'ai oublié son nom,
Alexandre Leclerc,
qui est
community manager et chef de produit chez Capcom France.
Voilà, que tu as rencontré, tu as pu parler donc avec lui de Lost Planet 2, et pas seulement, tu as parlé aussi avec lui de Street Fighter 4.
Exactement.
Voilà, donc on écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après. Game Radio.
«
Alors ici Choam pour Game Radio, je suis donc dans le centre japonais en présence d'Alexandre Leclerc, en présence exceptionnelle de Alexandre Leclerc, puisque nous venons de sortir d'une journée de session sur le jeu Lost Planet 2. Donc voilà, j'y ai pu tâter pendant une journée avec trois autres joueurs sur PS3 à ce jeu parfait. Pour moi, c'est le jeu parfait de la coop. On a déjà pu en tâter sur la démo qui était disponible sur le live et le PSN. Là, j'ai joué pratiquement au jeu complet. J'ai fait les trois premiers mondes et c'est juste un grand, grand plaisir. C'est vraiment du plaisir à l'état pur. Mais on va en parler avec avec Alexandre Leclerc, donc qui est chef de produit chez Capcom Europe. Et bah voilà, il va d'abord un peu se présenter et puis je vais lui poser quelques questions sur Lost Planet 2 et sur Super Street Fighter 4 qui est sorti pratiquement en même temps. Voilà. Donc Alexandre Leclerc, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà. D'abord, on va parler de Lost Planet 2 puisqu'on a passé la journée dessus. Capcom Europe, Capcom tout court même, comment a-t-il préparé la sortie de ce jeu auquel on attendait beaucoup plus tôt?
Alors la sortie en fait, ça a été notamment la mise en ligne de démos pour que les joueurs puissent tester, comme aujourd'hui vous avez pu tester le jeu. Donc c'est vraiment montrer le jeu, puisque notre force chez Capcom c'est vraiment le contenu, c'est vraiment le jeu avant tout, puisque on est, enfin en tout cas quand nos fans parlent de nous, on est vraiment très reconnus pour notre qualité en termes de gameplay. Donc voilà, c'est montrer le jeu, montrer des trailers pour montrer vraiment toute l'explosivité, je sais pas si ça existe, mais en tout cas du jeu, et tellement graphiquement il est abouti aussi, et pour montrer bien sûr l'aspect coopératif du jeu, l'aspect également sur les nouveaux environnements, puisque Lost Planet 1 se déroulait exclusivement dans la neige, Lost Planet 2 se déroule maintenant dans des univers communs, donc c'est-à-dire la jungle, une ville, des déserts, des océans, mais bien qu'on soit toujours sur la même planète. Hein. Et donc voilà, donc vraiment ça a été une montée en puissance jusqu'à la sortie qui arrive la semaine prochaine, hein, le mardi 11 mai sur Xbox 360 et PlayStation 3.
T'es rentré un petit peu dans les détails de Lost Planet 2 par rapport à la différence avec Lost Planet. À part donc ce côté différent au niveau de l'univers qui est maintenant complètement différent, parce que on a vu la jungle dans la démo, mais finalement on n'a pas que la jungle, on a aussi donc j'ai vu des mondes, un monde entièrement de ville avec tout un complexe assez dans la nuit, on a aussi un monde dans le désert, là c'est un monde vraiment tout jaune avec vraiment un peu cet esprit un peu Mad Max, même Dune. Plus un esprit de Dune d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, on va peut-être pas parler de tous les mondes parce qu'on va peut-être un peu laisser les surprises. Mais donc en dehors du fait qu'il y ait des mondes différents, quelle est vraiment la véritable différence avec le premier Lost Planet en plus de la coop à 4?
Les grosses différences, hein, ben là déjà on est déjà sur les mondes, c'est l'évolution de l'environnement et la coopération. La grosse différence en termes de gameplay, il y a eu beaucoup d'améliorations que les joueurs souhaitaient, notamment on peut courir, bien entendu il y a la faction qui se trouve avec nous, puisque même quand on joue tout seul, on a trois bots, comme on dit, qui nous suivent. Donc il y a eu un gros travail sur l'intelligence artificielle également, afin qu'il soit le plus intelligent. C'est toujours combattre des plus gros monstres. Ça a été vraiment la volonté de Capcom, et vraiment ces monstres ont été designés de par leur, je dirais, leur manière de se déplacer avant tout que de les designer artistiquement. Donc voilà, c'est aussi la progression du jeu qui a évolué, hein, qui est découpé maintenant en 6 épisodes avec chacun des chapitres, ensuite des missions et bien sûr un aspect multijoueur avec la customisation de tout le personnage, la présence de nouveaux engins, puisque avant on pouvait contrôler notamment des VS, mais maintenant il y a des hélicoptères puisqu'ils interviennent dans le scénario du mode campagne, également des motos volantes qui interviennent à un certain épisode du jeu, et donc du coup voilà, c'est pour plus d'action, plus de fun, plus de liberté et de variété surtout. Où les maps et les cartes, enfin les cartes qui sont présentes dans le jeu sont tout aussi variées et beaucoup plus que le premier.
C'est vrai que les mondes sont complètement adaptés, même les chapitres sont complètement adaptés au jeu à 4, puisque même quand on joue en solo, il y a des bots qui jouent avec nous. C'est plus un jeu en solo comme l'était Lost Planet, mais vraiment un jeu à 4. la coopération est de plus en plus, enfin, est demandée de plus en plus au fur et à mesure du jeu, notamment sur les boss où, voilà, si tu vraiment t'as pas une bonne coopération, bah voilà, les boss tu les feras jamais. Et même des niveaux entiers, si tu joues pas à 4, bon bah c'est même pas la peine, nous on a galéré parce qu'on n'arrivait pas à avancer sur le monde du désert, entre autres. On va finir sur Last Planet. Tu parlais du multi, justement. Il y a tout un système de customisation que, en gagnant des points dans le mode multijoueur coopération, mais aussi dans le mode multi. Quelles sont vraiment cette customisation? Qu'est-ce que tu gagnes au fur et à mesure? Est-ce que c'est des têtes? Est-ce que c'est des costumes? Est-ce que c'est des armes?
Alors, en fait, dans le mode multijoueur, on peut gagner pas mal de choses. Dans l'aspect customisation du personnage. Puisqu'on peut customiser entièrement son personnage du haut en bas. D'accord? Donc, c'est à la fois la tête, les bras, donc tous les habits, les couleurs, les textures, etc. qui sont bien sûr reprises du mode campagne, hein. Et donc c'est ça, on les débloque notamment dans le mode campagne par des succès, puisqu'en fait il y a un système de rewarding, hein, comme on dit, donc de récompense du joueur parce qu'il est bon. Et parce que, par exemple, il a fait un massacre d'Akrid parfait, en timé, sans tirer à côté, etc. Donc, du coup, il va être récompensé pour ça. Il y a également beaucoup de ce qu'on appelle les emotes, en fait. C'est des espèces de positions pour se récompenser. Donc, c'est, par exemple, normalement, pour éviter les balles à la Matrix, des positions de manga japonais complètement dingues, hyper rigolotes. Et ça, c'est le côté vraiment très décalé que seuls les Japonais savent faire. Il y a également pour siffler, pour appeler son pote, étant donné qu'on ne contrôle pas ses bots, hein, on peut les siffler, on peut leur dire de venir par un signe. Donc voilà, c'est tout l'aspect coopération, c'est toujours dans une optique de coopération et d'informer un peu les autres joueurs. Donc voilà, et bien sûr, après on peut personnaliser ses armes, prendre une mitraillette plutôt qu'une autre, et donc du coup partir à l'aventure avec des armes différentes en recommençant le jeu. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui ont été vraiment fortement développés sur Lost Planet 2.
On va simplement rappeler la date de sortie du jeu.
Alors la date exacte de Lost Planet 2, c'est le 11 mai, donc sur PlayStation 3 et Xbox 360 en même temps.
Ah oui, une petite question qui m'est venue. Lost Planet 2, est-ce qu'on aura la chance de le voir sur PC? C'était le cas pour le premier épisode.
Alors effectivement, on a annoncé récemment qu'il y aurait une version PC, et cette version PC a priori arrivera en automne.
Merci pour cette précision. On va parler de Super Street Fighter 4, puisqu'il est sorti la semaine dernière. C'est vrai que c'est un peu particulier, il a été un petit peu critiqué, Super Street Fighter 4, parce que on avait peur que ça soit une refonte, finalement, de nous faire payer un jeu complet qui est plus pour un DLC, puisqu'on avait déjà eu Street Fighter 4. Alors, pourquoi, finalement, ce n'est pas une refonte de Street Fighter 4, pour ceux qui auraient encore des doutes, pourquoi on repérait un autre jeu alors qu'on a déjà Street Fighter 4?
Alors, Super Street Fighter 4, c'est le jeu des fans. C'est l'ultime version de Street Fighter aujourd'hui. C'est l'aboutissement du projet Street Fighter 4 en général. Les joueurs ont demandé l'introduction de nouveaux personnages. Ils l'ont eu, notamment issus de Super Street Fighter 2, puisqu'il manquait deux à l'appel, hein, T-Hawk et DJ. L'introduction de personnages de la série Street Alpha, notamment Aiden, Cody, Guy. Ensuite, l'introduction de persos de Street Fighter 3 Third Strike, notamment Dudley, le boxeur anglais, qui se joue comme un Ryu, donc d'une manière vraiment très différente. On a également Makoto, qui est vraiment pour le coup très difficile à jouer et qui ne séduira que les puristes. Et il y a également Ibuki, donc la ninja, qui est vraiment assez accessible, très rapide et vraiment un style de combat à part. Donc ça, ce sont des demandes des joueurs. Et on a souhaité également introduire deux nouveaux personnages qui ne sont jamais apparus dans aucun Street Fighter. C'est Juri, la première coréenne du jeu, qui fait du taekwondo et pour le coup qui est le perso le plus accessible du jeu. Très facile à jouer et du coup intéressante pour les non-initiés surtout. Et ensuite on a Akan qui est un perso complètement original. Et pourquoi Akan? Akan, c'est comme dans Street Fighter 2 où on avait des persos complètement fous comme Blanca ou Dhalsim, c'est la volonté que Capcom a de recréer des persos originaux qui sont non négligeables parce qu'ils ont un style de combat propre à eux et qui sont très très fun à jouer pour le coup. Et donc du coup c'est le premier lutteur turc du jeu et c'est pour ça qu'il s'enduit d'huile pour être plus fort, pour glisser plus plus loin quand il fait des glissades justement. Donc voilà, vraiment un perso original quoi. Donc payer parce que je rappelle juste le prix conseillé du jeu hein, même si nous on ne vend pas des jeux directement, a priori il se trouve que Street Fighter, Super Street Fighter 4 est à un prix avoisinant les 40€ sur Xbox 360 et PS3. Donc ça a été aussi une volonté pour les joueurs de Street Fighter 4 de pas se sentir lésés du tout vu tout le contenu qu'on y ajoute. Enfin après je pense que on va en discuter juste après. Et pour les nouveaux, les non-initiés, de pouvoir en tout cas passer à Super Street Fighter 4 à un prix très abordable.
Justement, vous avez pas peur finalement quand on a Street Fighter 4, est-ce qu'on peut dire que le jeu va être abandonné en plus ou moins en multijoueur pour laisser place à Super Street Fighter 4? C'est, vous avez pas peur de ça en fait?
Pas du tout, clairement le nouveau standard c'est Super Street Fighter 4 et je pense que tous les joueurs l'ont déjà bien compris quand on voit le succès du jeu. C'est un nouveau standard puisque tout le gameplay et tous les personnages ont été rééquilibrés forcément en introduisant en plus 10 nouveaux personnages qui portent à 35 aujourd'hui. On est obligé de rééquilibrer tout le gameplay. On a également baissé le niveau de Sagat qui était beaucoup trop fort, donc il fait juste moins de dommages. Il se joue pareil mais il fait juste moins de dommages. Donc voilà, c'est des petits réglages que les joueurs demandaient parce qu'il y a eu des abus. Et à partir de là, c'est tout un gameplay qui a été rééquilibré. Donc du coup, ça devient le nouveau standard pour jouer à Street Fighter. Et après, on peut parler bien sûr des nouvelles caractéristiques du jeu, qui sont bien sûr le mode online, qui est bien enrichi, qui va certainement devenir aussi lui-même un nouveau standard dans le jeu en ligne, avec un mode replay intégré qu'on peut enregistrer et en plus envoyer pour partager ses combats. Ça, c'est un peu comme une chaîne YouTube intégrée en interne pour éviter d'aller sur YouTube à côté, etc. Hein, parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs y allaient. Pour regarder les matchs, un mode tournoi qui va faire son apparition en DLC gratuitement le 15 juin. Et donc du coup voilà, et on a également un mode combat en équipe pour retranscrire le salon en ligne. Et puis bien sûr des nouvelles arènes, beaucoup plus colorées, beaucoup plus vivantes. Et le retour des bonus stages pour respirer l'esprit Street Fighter 2 en fait. Voilà.
Justement, t'en as parlé un petit peu, donc les DLC, c'est un petit peu le sujet qui fait un peu grincer les dents des joueurs. On a vu notamment sur Street Fighter 4 où voilà les DLC n'étaient pas très très intéressants. Vous n'allez pas faire la même chose sur Super Street Fighter 4 où vraiment on va avoir des DLC très intéressants qui valent le coup d'être achetés.
Alors dans Super Street Fighter 4, il est important de noter d'une part que tous les costumes qui ont été achetés ou débloqués dans Street Fighter 4 sont compatibles directement dans Super Street Fighter 4. Donc pas besoin de racheter quoi que ce soit. Après, bien évidemment, nous allons proposer des DLC. Je crois qu'on a déjà annoncé certaines choses. Pour chacun des personnages, ils auront un costume alternatif qui est vraiment, pour le coup, très très original, qui change complètement la vision du personnage. Hein, quand on prend Zangief, par exemple, il passe de le lutteur qu'on connaît à un perso complètement métallique. Donc c'est vraiment le fun. Et ça, c'est pour les fans, c'est juste pour leur faire plaisir. Et donc après, bien sûr, ça nécessite du développement. Donc c'est pour ça que ça nécessite un DLC. Et ça arrivera dans le temps au fur et à mesure. Après, il y a des DLC gratuits, comme je disais, le mode tournoi, qui va arriver un mois et demi après la sortie du jeu, le temps que tout le monde se soit bien entraîné, pour voir un peu qui est le meilleur sur le live et le PSN. Et donc ce mode tournoi sera vraiment en ligne avec, bien sûr, la grille de tournoi, comme on connaît, avec différentes fonctionnalités. On pourra organiser un tournoi sans y jouer. Enfin, c'est vraiment, ça va être vraiment très poussé. Donc voilà, donc non, il n'y aura pas de DLC de folie. Après, comme le disait le créateur, donc Ono-san, s'il y a besoin d'une mise à jour pour un rééquilibrage encore du gameplay ou sur une éventuelle version arcade où on ressent qu'il y a beaucoup de ressenti de joueurs qui nécessitent une mise à jour, il y aura peut-être une mise à jour, étant donné qu'il y a du travail sur le jeu, une mise à jour payante ou non payante, on verra. Mais à l'état actuel, il n'y a pas forcément de DLC prévu, autre que les costumes alternatifs que je vous citais. Mais ça, c'est uniquement pour les fans et pour ceux qui veulent avoir un costume original, quoi.
Et je vais finir sur le PC, parce que Street Fighter 4 est aussi sorti sur PC. Je vais pas rentrer dans le jeu lui-même, c'était exactement la même que sur console. Sauf que, des petits malins ont un peu bidouillé le jeu, ont réussi à faire créer des costumes originaux aux personnages, des costumes en fait, sont créés des costumes. Qu'en pense justement Capcom de cette initiative? Est-ce qu'ils sont plutôt contents que ça existe ou au contraire ça leur plaît pas trop?
Moi j'ai envie de dire tout simplement oui, ça nous plaît. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout le monde est excité par le jeu et que quelque part le jeu a du succès et que les joueurs sont hyper passionnés. Et ça pour nous c'est beaucoup de reconnaissance. Et Et quelque part, c'est ce qu'on donne aux joueurs, ben ils nous le redonnent d'une certaine manière. Et ben de cette manière-là, en créant eux aussi, parce qu'ils sont tout aussi motivés pour créer. Et ça, ben si en plus on arrive à déclencher de la créativité chez les joueurs en plus de l'amusement, ben évidemment c'est incroyable quoi. Enfin voilà. Donc non, c'est incroyable de voir que ça existe en tout cas.
Nous chez Game Radio, on adore Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. On a prévu donc de faire un tournoi organisé en interne pour les auditeurs, donc avec le système de spectateurs et de tournois sur le live. J'espère que Capcom, pas forcément partenaire, mais soutiendra ce genre d'initiative. Et puis voilà, on vous présentera les premières, parce que je crois que ça n'existe pas vraiment encore les commentaires comme ça audio en radio de ce tournoi de Street Fighter 4.
Bah je, à ma connaissance comme ça me dit rien. Après je connais pas tout hein, loin de là d'ailleurs. Donc du coup bah si c'est une première, bah tant mieux, et ça va certainement plaire. Donc bon courage et bonne chance, et surtout amusez-vous bien, parce que je pense que c'est le plus important.
Voilà, bah merci beaucoup Alexandre Leclerc. Bah, très bientôt, et puis moi j'ai passé une excellente journée sur le Splanet 2 que je conseille vivement à toutes les personnes qui adorent la coop. Voilà, merci beaucoup, au revoir, c'était Shoham pour Game Radio. Merci. Game Radio.
Game Radio. Donc voilà, de retour dans cette émission, on va essayer de faire court parce que c'est un podcast un petit peu long. Il nous faudrait d'ailleurs plus de temps pour parler de Capcom. Je suis désolé, on a vraiment survolé le sujet. C'était juste qu'on voulait rendre un hommage à un des plus gros éditeurs que le monde du jeu vidéo est connu.
On a pensé à le faire en deux parties, mais bon, on s'est dit deux parties, c'est peut-être un petit peu chiant.
Voilà, donc bon, c'était surtout aussi l'occasion de faire écouter cette interview. Rapidement, si je reviens dessus, Lost Planet, toi Shoham, tu peux peut-être nous en parler. Donc tu y as goûté, on a entendu un petit peu ce que tu nous dis. Ça a l'air d'être du très très bon jeu en coopération.
C'est un excellent jeu en coopération, comme je le disais. C'est pour moi le jeu parfait sur console en coopération. Je le compare à Left 4 Dead parce que c'est l'un des rares jeux sur console qui permet d'avoir vraiment un gameplay qui tourne autour de la coopération. Voilà.
D'accord.
Et ça sur console, il y en a.
C'est ce que tu expliquais, c'est que ce que tu expliquais, c'est-à-dire que c'est comme dans Left 4 Dead, il faut vraiment être ensemble et jouer ensemble pour réussir à passer notamment certains boss.
Oui, oui, déjà parce qu'il y a déjà des stratégies à établir et beaucoup de communication entre les joueurs, que ça soit oral ou écrit, c'est plus difficile quand même.
Enfin bon, vous l'avez entendu dans l'interview, ça sort le 11 là, donc c'est mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Moi, je serai sur Lost Planet, c'est évident. Autre chose que j'ai retenu de cette interview, c'est quand il parle de Street Fighter 4 et qu'il nous annonce ce DLC gratuit, et je ne savais pas, un DLC gratuit qui va permettre d'organiser des tournois via le Xbox Live. Ça, c'est énorme.
Oui, c'est génial. Moi aussi, j'ai été surpris. Hein, comme non. Toi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dit ça, mais effectivement, c'est assez génial.
Et gratuit. Je le répète, c'est gratuit. Je trouve ça génial. Vraiment,
c'est impressionnant, quoi. Ça existe encore.
Oui, ils auraient pu le faire payer quand même, les cons. Ça sort le 15 juin, ça, et franchement, ouais, c'est une très très bonne chose.
Ils essaient de se rattraper par rapport aux gens qui parlaient des DLC payants, et ils ont dit c'est pas Capcom qui a décidé, c'est les constructeurs qui ont voulu faire payer.
Et d'autant plus, alors là, l'autre truc aussi, et merci Capcom, c'est tous ces DLC. Je parlais hier, excusez-moi, de Halo ODST, Halo 3 et Halo Reach. Et ben là, au moins, Capcom, respect, parce que tous les DLC que vous avez donc téléchargés pour votre premier Street Fighter 4 sont rétro-compatibles. Ils sont compatibles avec ce Super Street Fighter 4. Donc toute la thune que vous avez dépensée inutilement dans Street Fighter 4, et ben c'est pas si inutile puisque vous pouvez encore profiter de ces contenus sur votre nouveau Super Street Fighter.
C'était pas inutile, ça te donnait des vêtements supplémentaires.
Oui, d'accord. Ça te permettait de looker ton personnage. Mais voilà, mais d'autant moins inutile que c'est encore compatible et vous n'avez pas besoin de repasser à la caisse une nouvelle fois. Merci Capcom pour tout ça.
Merci pour acheter le jeu.
Et puis j'ai bien aimé le discours à la fin où ils nous souhaitent simplement à tous de prendre du plaisir, de prendre du bon temps, d'être créatifs avec leur jeu. Bah, merci Capcom de nous, depuis 25 ans, de nous offrir autant de bonheur et de plaisir, autant de jeux vidéo. Et de bonheur vidéoludique. Moi, je le vois vraiment comme ça.
Une chose est sûre, c'est
qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher.
Moi, c'est ce que me disait le représentant de Capcom. Mais bon, bien sûr, il va prêcher pour sa paroisse, mais il m'a dit que lui, on m'a expliqué qu'il travaillait avant chez Microsoft. Et voilà, chez Microsoft, c'était pas du tout la même ambiance.
Vas-y, balance.
Il avait pas du tout. Non, mais c'est vrai, il avait pas du tout cette ambiance un peu PME, tu vois, petite boîte qui écoute ses employés, qui écoute ses joueurs et qui font des jeux par plaisir. vraiment par pas par forcément l'appât du gain, un petit peu il faut bien vivre évidemment, mais aussi par pour donner du plaisir aux joueurs, et ça il le ressent vraiment vraiment beaucoup dans sa dans son entreprise dans laquelle il travaille, et ça fait plutôt plaisir à entendre quand tu sais que voilà les jeux sont effectivement tous de qualité et qu'ils écoutent les joueurs avant tout et leur donnent le plaisir qu'ils attendent tous.
Et c'est pas pour rien que Capcom en reste aussi une des boîtes qui diffuse le plus de nouvelles licences assez régulièrement, quoi. L'apparition, ils essaient, ils font des expériences,
et puis
c'est vrai qu'ils n'ont pas peur.
Et puis à l'image, moi Lost Planet, je sais pas pourquoi, je fais un lien vraiment avec Power Stone. J'avais adoré le premier Power Stone, j'ai beaucoup aimé le premier Lost Planet, et là il te servait à l'époque un Power Stone 2 qui était mille fois mieux, tu oubliais complètement le premier Power Stone et t'avais tous ces bonus en plus, ces stages en plus, ces niveaux en plus. Et là, Lost Planet, c'est pareil. Je sais pas, mais regarde ce qui nous offre. C'est un Lost Planet à côté. Il est complètement désuet. Là, t'as un contenu qui est énorme. Ils se foutent pas de la gueule des gens, réellement.
La seule chose qui aura moins, c'est la neige, en fait.
Voilà, on perd la neige. Quel dommage. Très bien.
Il y a pas que la neige. Il y a pas que de la jungle. Il y a vraiment différents mondes. Et surtout, et ça, moi, c'est ce qui fait que je suis complètement j'ai complètement adhéré au 2 alors que le 2 c'était naze. Surtout c'est qu'il y a une côté de coopératif et surtout multijoueur qu'il n'y avait pas dans le 1 et
on l'aura bien compris Sean, t'inquiète pas,
le multijoueur oui.
Voilà, donc on va en rester là pour cette émission consacrée à Capcom. On l'a vraiment survolé le sujet, je m'en excuse pas, mais on pouvait pas faire vraiment autrement. On voulait en tout cas diffuser cette interview, faire un petit hommage à un des éditeurs que nous on aime beaucoup sur Game Radio. Donc Capcom, merci pour tout ce bonheur. Je le répète, Vidéoludique, c'est la fin donc de ce podcast 66 du vendredi, un podcast, vous l'avez entendu, encore plus hasardeux que d'habitude. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle émission consacrée à YouGame.com ou FR, je ne sais plus, excuse-moi Lionel, en tout cas YouGame fait peau neuve, la bêta va démarrer très prochainement. Game Radio, l'équipe de Game Radio va pouvoir en exclusivité jeter un œil sur ce que va devenir YouGame, qui est un partenaire de longue date de Game Radio. Ça fait un an qu'on est partenaire ensemble, c'est le site de vidéo
de jeux vidéo.
Voilà, et c'est tenu par Lionel qui est vraiment un gars super et qui sera dans l'émission lundi. Voilà, très bon week-end à tous, plein de bonnes choses à vous et beau temps, beau soleil, à lundi, ciao,
à lundi, ciao.